Écoutez la différence avec Dunia Web, votre meilleure radio Dunia Web.
Alors, nous avons pris beaucoup de retard. En ce moment, nous allons assister à la deuxième partie de cet événement avec notre très jeune écrivain, Monsieur Ali Zamir. Et je vous rappelle que ces livres sont à votre disposition derrière. Il peut vous faire une dédicace. Hein. Vous pouvez voir son dernier roman, Mon étincelle. Enfin, je ne sais pas si c'est un roman ou une pièce théâtrale. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Je vous rappelle que le modérateur de cette rencontre, c'est Monsieur Mansef Saïd Ibrahim, bureau de représentation de l'Union des Comores à l'UNESCO.
Très chers amis, j'ai le plaisir d'introduire Ali Zamir, notre écrivain national, qu'on ne présente plus et avec lequel je suggérerais que nous entrions en interaction parce que je pense qu'il y a beaucoup de questions que vous souhaiteriez poser. Tout à l'heure, avant que nous entrions dans la salle, une jeune fille était venue avec ses documents tout préparés, justement, avec des questions toutes prêtes. Ali Zamir, vous êtes né en 87. Vous avez une longue expérience dans l'enseignement, mais dans le voyage également. Alors, je me suis découvert un point commun avec vous. Nous sommes passés par l'Égypte à 10 années de différence. J'ai fait l'université du Caire, la même bâtisse, et je me suis rendu compte que 10 années après, vous êtes passé par le Caire. Vous avez fait des études de lettres. Et vous vous êtes distingué dans votre projet d'écriture qui aura marqué les esprits à la fois par sa nouveauté en termes stylistiques, en même temps en termes d'audace, en abordant des sujets extrêmement complexes comme l'altérité, l'autre, l'immigration, mais avec grâce, avec une certaine poésie, dans les noms que vous avez déjà donné aux protagonistes de votre nouvelle, notamment Anguille Souroche, et puis par la suite dans Les Étincelles, il y a quelque chose d'une poétique dans une situation tragique. Alors, avant que d'aborder profondément votre œuvre, du moins d'aider à aborder cette œuvre, j'avais une question très personnelle quant à savoir d'où vous est venue déjà votre vocation à l'écriture. Est-ce que c'est une lente maturation qui a épousé les âges d'apprentissage, ou bien c'est quelque chose, je ne sais pas, une vocation profonde qui vous est sorti des tripes. Alors, moi, je suis très curieux de savoir pourquoi cette écriture, une façon de vous raconter, une façon de toucher à la complexité du monde aussi, de l'aborder. C'est quoi ? C'est une expérience ? C'est un besoin très personnel ?
Bien, merci. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier l'association Comore Impact. Et sans perdre du temps, je réponds à la question. Comment est-ce que je suis arrivé à l'écriture ? Il faut d'abord savoir que l'acte d'écrire est lié étroitement à l'acte de lire. C'est-à-dire qu'avant d'écrire, j'étais un grand lecteur. Et je lisais beaucoup. Je lisais même des livres qui n'étaient pas de mon niveau. Et ce qui fait que j'ai senti ce besoin, cette envie d'écrire. C'est-à-dire, moi, quand j'étais enfant, j'étais timide et je ne parlais pas beaucoup. Et ce qui fait que j'ai toujours senti que je devais écrire pour dire ce que je ressentais, ce que j'entendais dire par les adultes. Je n'avais pas droit au chapitre, je ne parlais pas beaucoup, donc je pensais que je ne pouvais être libre qu'en écrivant. Et donc, en prenant la plume, je l'ai prise pour chercher, pour questionner. Et ça, vous le verrez dans mon écriture. Mon écriture est une écriture qui questionne, qui met en doute tout ce que je dis, je ne le dis pas avec certitude.
L'écriture de liberté.
Oui, c'est une écriture de liberté, c'est une écriture de une écriture qui est en pleine recherche, qui explore le monde, qui explore la littérature. Parce que mon écriture...
En tout cas, qui déconstruit notre monde, qui l'interroge,
tout
qui
à
le
fait,
bouscule.
Tout à fait. Et ça, vous avez cité Anguille Souroche. C'est un roman qui caractérise ce que je suis en train de dire. C'est un roman qui est écrit en une seule phrase. C'est une seule phrase qui fait 320 pages. C'est un monologue. Et c'est un monologue qui pose la question, est-ce que la langue suffit à tout dire, à tout exprimer? La question est très importante, est très importante pour moi, de telle sorte que j'ai voulu écrire une phrase sans début ni sans fin. Parce que mon texte, Anguille Souroche, commence par une interjection, oh, et ouf à la fin, pour dire que la phrase n'est pas finie. Et peut-être que l'héroïne a été renversée par une vague. Peut-être qu'elle a été surprise par la mort. Par la mort, j'ai laissé cette ouverture.
Une possibilité d'imaginer un autre fil à ce dialogue que vous prenez, que vous avez charnellement avec les personnages.
Oui, tout à fait, c'est une écriture qui établit une relation entre l'écrivain et le lecteur, entre la narratrice et celui qui l'écoute. C'est-à-dire que c'est une écriture qui est en rapport avec l'oralité aussi. Et de temps en temps, la narratrice interpelle le lecteur pour le questionner, pour lui dire s'il peut l'aider, s'il est là, s'il la suit. Et là, on voit que c'est une narratrice qui est perdue, qui remet en doute tout ce qu'elle raconte et qui pose la question, est-ce qu'on peut se fier à tout ce qu'on entend? Parce qu'elle s'est réveillée en pleine mer, elle dit ce qu'elle a vécu, mais elle dit aussi qu'elle ne se rappelle pas, elle n'est pas sûre, est-ce que ça s'est passé exactement comme ça ou non. Et là, pour moi, c'est pour dire que il ne faut pas se fier au langage, il ne faut pas se fier à l'écriture. L'écriture est insuffisante pour tout dire. L'écriture est une aventure. Et moi, justement, j'ai écrit...
Le monde comme représentation... Oui.
Anguille Souroche est une écriture d'aventure, c'est une écriture qui s'ouvre au monde, c'est une écriture qui demande à l'autre de nous tendre la main, qui demande à l'autre de s'ouvrir à nous, c'est-à-dire que vous, en tant que lecteur, d'abord, vous serez obligé de ponctuer, et ça, c'est quelque chose d'autre, hein. C'est notre secret que je dévoile. C'est une écriture qui n'est pas ponctuée. Et vous serez obligé de le ponctuer. Et là, vous me rejoignez dans le processus d'écriture. Et là, l'acte de tendre la main s'accomplit parce que vous m'accompagnez dans le processus d'écriture. Vous accompagnez une héroïne qui est en train de mourir dans la solitude. Vous êtes en train de la suivre et de vous porter témoin de ce qui se passe partout dans le monde, pas seulement dans l'océan Indien, mais partout dans le monde, où il y a des victimes qui disparaissent dans le silence.
Alizamir, vous avez été récipiendaire de plusieurs prix, dont le prix Senghor et le prix Mandela.
Oui,
plusieurs autres, mais ces deux nous interpellent. S'agissant, et là c'est une, je voudrais une dernière question pour laisser le public poser des questions, comme une écriture d'engagement où il y a beaucoup de tendresse hein, qui se détache. Vous parlez de la ponctuation absente. La ponctuation en général organise les silences comme les intermèdes en musique, et que là on a l'impression que justement vous tenez la main à le lecteur et que vous l'invitez à vous poursuivre de façon haletante dans une espèce de tendresse, mais en toile de fond un drame, une tragédie de l'immigration. Alors, une écriture d'engagement, et où se situe votre dialogue à l'altérité, à l'autre, et quel message que vous essayez de passer? Est-ce que c'est une façon aussi de, à la fois de bousculer le jeu est un autre, mais en réalité, l'autre, c'est nous-mêmes. C'est que l'autre, on parlait tout à l'heure, avant que nous rentrions dans la salle, de la nécessité, avec le maire Ibrahim Dufriche, de casser les murs des esprits chagrins, du mental. Alors votre écriture, c'est une écriture d'engagement.
Vous avez parlé de beaucoup de choses très, très importantes. C'est que l'engagement, moi, c'est... Je n'ai jamais dit que j'étais un écrivain engagé. C'est aux critiques de le voir. Et je ne peux pas m'opposer à cela. Mais je veux juste vous dire qu'un écrivain, quand il prend la plume, il ne doit pas se dire, voilà, je vais m'engager à défendre telle idée ou bien à défendre telle idéologie ou bien à faire de la politique. Ça, ce n'est pas de la littérature. Pour moi, ce n'est pas de la littérature. Parce que la littérature intentionnelle n'est pas une littérature en tant que telle. Il faut, dans la littérature, il faut une sensibilité, il faut qu'il y ait du rêve, il faut qu'il y ait une évasion, il faut toujours qu'on se laisse aller. Et c'est ce que moi je fais la plupart du temps, je ne me rends pas compte de ce que je fais. Et donc, je laisse aux critiques d'interpréter ce qu'ils voient. Et c'est vrai qu'on peut parler de la politique dans une œuvre littéraire, on peut aborder un sujet politique, mais ça ne sera pas de la politique, ça sera de la littérature. Parce que tout simplement, quand l'auteur, quand l'écrivain abordait ce sujet, il n'était pas un homme politique. Mais la politique et la littérature peuvent se rencontrer sur la même tribune, mais ils n'ont pas le même but. Ils n'ont pas le même but. Je citerai Stendhal qui écrit dans son La Chartreuse de Parme. Il écrit la politique dans une œuvre littéraire, c'est un coup de pistolet au milieu d'un concert, quelque chose de grossier, selon lequel il n'est pas possible de refuser son attention. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter malgré tout. C'est un coup de pistolet au milieu d'un concert, mais on ne peut pas éviter. Parce que une fois qu'on vit dans une société où il y a un sujet politique qui gangrène, il faut toujours que ça influence l'écrivain. Et c'est ce qui fait que on peut avoir un sujet politique dans une œuvre littéraire, mais il ne sera pas traité comme un sujet politique. Ça sera un sujet littéraire. C'est pour cela que moi, quand j'écris, mon intention est toujours de faire en sorte que mon texte soit un texte littéraire, c'est-à-dire avec une intention esthétique, plutôt que politique ou bien idéologique. C'est une intention esthétique.
C'est une création artistique,
voilà,
dont le destin épouse dans l'œuvre les soubresauts du politis, mais pas de la politique.
Voilà, tout à fait.
De ce qui nous entoure, d'un destin collectif. Ouais. Peut-être que je vais laisser la parole aux questions. Je vois... Alors, quand vous avez eu la parole tout à l'heure en tant que modérateur, je vais peut-être donner d'abord et puis je vous reprends.
Et je vous rappelle, on n'a pas assez de temps, donc on ne va pas prendre beaucoup de questions.
Je vais prendre trois questions
peut-être.
Donc,
trois questions, grand maxi. Une question et une intervention. C'est lui qui décide, le modérateur, oui.
Oui, oui, moi je voudrais qu'on commence par une femme d'abord.
Les femmes d'abord, ok.
Les femmes d'abord.
Ça sera l'honneur
cher
de...
Ami, tu me le pardonneras.
Est-ce que vous pouvez avancer, s'il vous plaît? Sinon, rapprochez-vous ici, s'il vous plaît.
Ouais.
Il y a les caméras qui veulent vous voir. Ça sera intéressant.
Je te donne une feuille.
C'est bon. Bonjour. Déjà, enchantée de vous rencontrer. C'est un énorme plaisir. Ensuite, ma question, elle va être toute simple. Dans le contexte de la littérature, on a un rapport à l'onomastique qui est assez important. Ce que l'on retrouve aussi dans Guy Souroche, mais que l'on retrouve davantage dans Mon étincelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi, vous, des prénoms comme ceux-là, Dafalgan et Feralgan et tout ça, qui est assez intriguant lorsqu'on lit le roman?
Merci beaucoup, madame. C'est une question très importante, bien évidemment. Tout à l'heure, il m'a posé la question, il a parlé de barrières, de briser les barrières. Et c'est ce que je veux parler. Moi, quand j'écris, j'écris pour tout le monde. Je n'écris pas uniquement pour les Comoriens. Et excusez-moi, quand j'écris pour tout le monde. Et je le fais exprès pour me distinguer, c'est-à-dire pour briser les idées reçues, c'est-à-dire ces barrières. Parce qu'il y a des barrières dans la société comorienne, et dans la société et dans la littérature comorienne. On fait de la littérature comorienne une littérature qui ne peut pas s'ouvrir aux autres, une littérature qui s'enferme, exactement comme ceux qui écrivaient avec la négritude. On ne peut pas écrire, les écrivains africains ne peuvent pas écrire tout le temps et parler de la négritude comme Senghor. Il faut dépasser cela. Et chaque génération a son temps. Et il faut se l'approprier. Moi, je m'approprie mon temps, je veux explorer le monde. Et quand j'écris, je rêve. Je viens de le dire tout à l'heure. Moi, je ne me souviens pas de ce que je fais au moment où je le fais. Et c'est après. Je me demande après pourquoi je l'ai écrit. Et c'est pour vous dire que, madame, là je reviens à votre question, ces noms-là, je les ai choisis exprès pour donner à mon texte une dimension universelle, pour permettre à tout le monde de pouvoir s'identifier. Ça, c'est la première chose. Le récit, mes récits sont des récits qui se déroulent dans la société comorienne, mais mes personnages sont des personnages universels. Ce sont des personnages qui peuvent se trouver partout dans le monde. Et c'est pour cela que j'ai choisi ces surnoms au lieu de nom, ou bien prénom. Et puis, pourquoi ces surnoms? Parce que je sais que nous avons des mentalités, notre société est une société sensible. Donc, j'ai voulu échapper à ce qu'il y ait des personnes qui se sentent visées. J'ai voulu échapper à cela. Je ne veux pas qu'il y ait des personnes qui se sentent visées. Ça, c'est la deuxième raison de ce choix. Et puis, une troisième raison et dernière raison, c'est que je me suis rendu compte qu'en me servant de ces surnoms, je bénéficie de plus de liberté, je brise ces barrières, je ne m'imagine pas être un Comorien, mais un être humain, un citoyen du monde. Voilà. Et j'espère que j'ai répondu à votre question.
Moi, Je voudrais bien que la jeune fille là-bas pose une question. Parce qu'elle s'est préparée depuis tout à l'heure. Si vous voulez bien lui donner le micro.
Ou le micro, et voilà.
Bonjour, je m'appelle O.R. Je voulais vous poser comme question...
Vous entend pas bien. Vous entend pas bien.
Bonjour, je m'appelle O.R. Je voulais vous poser une question. Comment vous avez fait pour devenir un écrivain et passionné de la langue française dans un pays où il n'y a pas de bibliothèque? Enfin, où il n'y avait pas de bibliothèque ou peu de bibliothèque.
Merci. Comment je suis devenu écrivain, n'est-ce pas? C'est la question. Dans un pays où il n'y a pas de bibliothèque. Oui, vous avez tout à fait raison de poser cette question, parce que c'est vrai, c'est que ce qui m'est arrivé, ça n'arrive pas à tout le monde. Je comprends, ça c'est vrai. C'est que moi, quand j'étais enfant, je lisais beaucoup, et mon lieu de loisir, c'était l'Alliance française. Et ce qui fait que tout le temps, j'étais à l'Alliance française, et j'avais des relations même très fortes avec le personnel même de l'Alliance française. Je lisais beaucoup, je faisais des recherches, et ça ne suffit pas, justement. Mais ce qui est très important pour arriver, c'est l'ambition. Moi, j'avais beaucoup d'ambition. Et la preuve en est que lorsque j'ai obtenu mon baccalauréat en 2004, ma famille n'avait même pas les moyens de payer mes études. Ce qui fait que j'ai fait une année blanche sans rien faire. J'ai fait une année blanche, je suis resté à la maison parce que je ne savais pas où aller. Et en 2005, on m'a proposé une bourse tardivement qui a été abandonnée par un autre étudiant, tardivement. D'ailleurs, la bourse allait être annulée. Mais comme... J'ai voulu montrer que je voulais apprendre. J'ai pris la bourse, je suis parti au Caire, à l'université du Caire, dans un pays où on ne parle pas français, mais on parle arabe. Et j'ai fait lettres françaises à l'université du Caire, dans la faculté des lettres, dans le département de langue et littérature française. Oui, un samedi.
Ce que vous avez commis un samedi, pas comme les autres.
Tout à fait.
Vous avez relaté cette première expérience. Je m'y suis un peu retrouvé également.
Tout à fait. Et je suis arrivé un samedi soir au Caire. Et d'ailleurs, j'ai écrit un texte qui parle de cette soirée.
Abdou Djouar, oui.
Dernière question, ce sera avec...
Non, Abdou Djouar.
Bonjour à tous, moi j'avais une question à poser. Je comprends bien le débat sur l'art pour l'art, l'art, engagement, etc. Je le connais, ce débat-là. Mais je pense que ce n'est pas contradictoire d'avoir un engagement dans une œuvre, parce que je voulais juste rappeler à tout le monde ici que l'une des plus grandes œuvres de la langue française, ce sont Les Misérables. Eh ben, vous trouverez de la poésie, vous trouvez un message éducatif, vous trouvez de l'engagement contre, par exemple, la peine de mort. Vous trouvez toutes ces choses-là, et ça n'enlève pas forcément... Donc, c'est pour ça que je dis qu'on n'a pas la chance d'avoir des gens qui ont le talent de s'exprimer. Et c'est pour ça que je trouve que c'est... Vous êtes un écrivain libre de faire ce qu'il fait
question
de son art. C'était simplement un commentaire là-dessus. Donc je dis que c'est pas contradictoire de marier la poésie, l'engagement dans une œuvre. Et c'est pas, pour moi, je suis pas d'accord. C'est pas un coup de pistolet dans un concert. Je suis désolé, ça n'est pas un.
Merci.
Parce que quand vous trouvez dans Les Misères, vous trouvez les engagements sur contre la peine de mort, ou même les premières pages, l'ouverture, même ce prêtre qui donne tout ou presque au bandit parce qu'il est... Voilà, vous comprenez ? Donc, je ne peux pas être d'accord.
Vous avez parlé de la poésie, vous avez parlé de... Ça, c'est le côté esthétique d'un texte littéraire. Et c'est ce que je venais de parler. Mes textes sont à la frontière des genres, d'ailleurs. Quand vous lisez Anguille sous roche, c'est un texte qui peut être lu comme une pièce théâtrale, mais il peut être lu comme un poème en prose, mais aussi comme un roman. Et ça, je l'ai fait exprès. Et c'est ça ce que je venais de dire tout à l'heure. Ce qui m'importe, moi, c'est le côté esthétique. D'ailleurs, la définition de la littérature est une définition très, très, très vaste. Mais moi, j'ai ma définition à moi. C'est que la littérature, c'est l'ensemble des œuvres écrites et aussi orales auxquelles on reconnaît une dimension esthétique. Il faut que cette dimension esthétique soit là pour qu'on parle d'une œuvre littéraire.
Merci. On ne va pas nous enquister dans une querelle entre les anciens et les modernes. Je vais prendre une dernière question. Abdou Johar qui insiste.
C'est docteur.
Et je sais qu'il saura être court, Abdou Johar.
Désolé d'insister, monsieur Mons. Alors, bonsoir à Ali. Bon, premièrement, moi qui t'appelle Ali, on s'y connaît très bien. Et d'abord, avant de te poser ma petite question, d'abord, je tiens à vous dire merci beaucoup parce qu'en fait, tu voyages de ville en ville en France et de pays en pays pour représenter la littérature comorienne. Et grâce à toi, cette jeune littérature est universelle. Alors, ma petite question, Ali, de qui tu t'inspires pour écrire vraiment ton premier livre ? Parce que ça m'étonne que ton premier livre s'écrive en une seule phrase.
Alors, c'était la dernière question, s'il vous plaît.
Si j'ai bien compris la question, vous demandez à qui s'adresse mon...
Non, de qui tu t'inspires.
Ah, de qui je m'inspire. C'est une question très difficile pour moi parce que j'ai beaucoup lu, je viens de le dire tout à l'heure, mais au moment où j'écrivais Anguille sous roche, peut-être c'est peut-être ce qui pouvait vous aider. J'ai beaucoup lu, mais au moment où j'écrivais Anguille sous roche, J'étais en train de faire une étude comparative de Camus et de Kafka. J'étudiais le procès de Kafka et l'étranger de Camus. J'étudiais aussi une œuvre, un roman d'un Libanais qui s'appelle Elias Rouri et un autre roman de Le Clésio qui s'intitule Étoile errante. Étoile errante et Le voyage du petit Gandhi de Elias Rouri. Et puis Le procès de Kafka et L'étranger de Camus. Et ces deux ouvrages m'ont beaucoup passionné. Et ces études comparatives, je les ai faites entre 2009 et 2010. Et c'était au moment où j'écrivais Anguille sous roche. Donc je ne sais pas qui m'a influencé parce que j'ai beaucoup lu, j'ai lu Victor Hugo, Les Misérables, Le Dernier Jour d'un Condamné. J'aime beaucoup Victor Hugo avec sa poésie, avec son engagement. Et j'aime beaucoup des écrivains comme Le Clésio avec son écriture sensible. Parce que Le Clésio est écrit avec douceur et moi, dans le côté de la douceur, je me compare à lui un peu. Mais moi, en tant qu'écrivain, je ne peux pas me comparer à un écrivain. C'est aux critiques de le faire. Je ne peux pas dire que j'écris comme Victor Hugo, mais que j'écris comme... D'ailleurs, c'est mauvais de le dire. C'est mauvais parce que je vous le dis sincèrement, pour moi c'est mauvais d'essayer d'imiter un écrivain. Il faut être soi, il faut faire son chemin. Même si on sait qu'on sera influencé par quelqu'un, mais il faut créer, il faut tracer son chemin. Et c'est ce que moi j'essaie de faire.
Merci, il semble que nous soyons pressés par le temps. Alors je voudrais remercier Ali Zamir.
Merci.
Hein, d'avoir bien voulu nous accompagner dans ce voyage, échange entre nous. Je voudrais remercier le Comore Impact également de nous avoir donné
merci
cette occasion.
Merci à vous, merci.
Merci mille fois.
Je vous remercie à tous et à toutes. Alors, je vous rappelle que les deux livres de Monsieur Zamir sont à votre disposition, Mon étincelle et Anguille sous roche. C'est pas moi qui les vends, mais je crois que les éditions Selakant en disposent. Et derrière, c'est derrière. Voilà, c'est Madame Fahima qui les a avec Madame Naila. Alors, je vous rappelle que avant d'entamer la troisième partie de cet événement, nous allons faire une pause café.
Écoutez la différence avec Dunia Web, votre meilleure radio, Dunia Web.